base un fond d'astrophysique, en fait on avait parlé de cosmologie, un titre très astrophysique qui est comment fabriquer la Terre pour l'explosion du Big Bang. En fait c'est un cours qui se base dans la session méthodologie, et ce qu'on va faire c'est tout simplement l'analyse des données en cosmologie. On va parler d'une sonde en particulier qui est le CMB, qui est pour Cosmic Microwave Background en anglais, fond diffus cosmologique en français. Donc, le plan du cours, il se découpe en quatre parties. Cette première heure, on va voir partie 1 et 2, qui sont les parties introductives, pour présenter un petit peu ce que c'est le fond diffus cosmologique et comment on fait pour extraire l'information cosmologique, donc des propriétés d'ensemble de l'univers à partir de cette sonde. Et puis dans une deuxième partie, on va voir un petit peu comment on passe de la mesure instrumentale à l'extraction de ces paramètres cosmologiques. Donc ça, c'est la partie, c'est le cœur de la présentation, la partie un petit peu difficile. C'est un peu difficile parce qu'en fait, on est dans ce qu'on appelle l'ère de la cosmologie de précision. Donc on a une analyse des données qui est complexe. Alors on ne va pas faire la complexité dans le détail, parce que ça ne présente pas forcément l'intérêt. On va plutôt se concentrer sur la méthodologie, comment on fait pour sortir des résultats qui sont précis et fiables quand on a une analyse des données qui est complète. Et puis on terminera avec une partie un peu d'ouverture sur ce qu'il nous reste à faire avec cette sonde. Donc on s'intéresse à la cosmologie. Ce qu'on cherche à faire, c'est une carte d'ensemble de l'univers. Donc on va en fait avoir deux propriétés pour cette carte. On va chercher à mesurer un signal dans toutes les directions et on va chercher à remonter loin dans le temps. Donc la vitesse de la lumière est infinie, en fait, on va chercher à remonter loin dans l'espace et ça va nous permettre de remonter loin dans le temps. Donc première propriété, on cherche à regarder partout dans le ciel, ben, ça c'est pas difficile, il suffit de lancer un satellite et regarder dans toutes les directions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire une sphère de signal qu'on va projeter sous forme d'une planisphère. On a l'habitude de faire avec la Terre, par exemple. Sauf qu'ici, la particularité, c'est qu'on est au centre de la sphère en tant qu'observateur. Et pour remonter loin dans le temps, ce qu'on va faire, c'est regarder tout simplement dans le domaine des ondes radio, dans le domaine des ondes micro-ondes. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, avec l'expansion de l'univers, on va avoir un décalage du spectre dans les grandes longueurs d'onde. Les objets qui étaient visibles il y a 13 milliards d'années sont maintenant dans le domaine des ondes radio. Donc pour regarder à des distances cosmologiques, à la distance de l'univers, c'est-à-dire 13 milliards d'années, il suffit de regarder dans le domaine des ondes radio, dans le domaine des ondes micro-ondes. Donc ces 13 milliards d'années, ça correspond à un redshift. Donc redshift, c'est décalage vers le rouge, décalage vers les grandes longueurs d'onde, d'environ 1000 à 1100. Et en fait, on va beaucoup utiliser cette échelle de distance dans ma présentation. Donc je vous mets ici un petit peu correspondance entre âge et redshift pour vous préciser un petit peu les époques. Alors, le fond diffus cosmologique a été découvert un petit peu par hasard par deux radioastronomes qui travaillaient sur une antenne de communication radio et qui ont trouvé un bruit supplémentaire dans leurs observations. Donc, ce bruit avait des propriétés particulières, il était isotrope, donc le même dans toutes les directions du ciel. Il ne variait pas non plus dans le temps, il était faiblement polarisé. Donc on a rapidement suspecté une origine cosmologique, puisque ça faisait un certain nombre d'années qu'on avait ces modèles de Big Bang qui prédisaient une telle émission avec une température qui était estimée entre 5 Kelvin et 50 Kelvin. Le signal qu'ils ont observé était à 3 Kelvin. Et puis pour prouver définitivement qu'il s'agissait bien du fond diffus cosmologique prédit par le modèle de Big Bang, il restait à montrer en fait qu'il avait un spectre de corps noir et puis qu'il était isotrope sur tout le ciel, qu'il fallait observer une plus grande portion de ciel. C'est ce qui a été fait quelques années plus tard par des expériences dédiées, et c'est ce qui a valu donc le prix Nobel à ces deux radioastronomes pour cette découverte. Donc si on revient un petit peu à ce modèle de Big Bang, donc ça c'est une prise qu'a déjà présenté Jean Lano hier. Donc tout part du fait qu'on est dans un milieu en expansion. Donc cet univers en expansion, il va se refroidir et se dilater. On commence notre frise chronologique avec une phase d'inflation, qui est en fait une phase où l'univers est en expansion exponentielle, et il étend des petites fluctuations primordiales, on va revenir un peu sur ce que c'est tout à l'heure. Au fur et à mesure qu'on s'étend et qu'on refroidit, on va combiner différents éléments. Donc, à 3 minutes après le Big Bang, c'est la nucléosynthèse primordiale, on combine les noyaux. 400 000 ans après le Big Bang, on va combiner les premiers atomes. Et puis l'histoire continue, par effet gravitationnel, on va combiner et former les premières étoiles, former les premières galaxies, ça c'est 400 millions d'années après le Big Bang. Et pour fixer un petit peu les idées, notre système solaire, c'est 8 milliards d'années après le Big Bang. La période qui nous intéresse, c'est cette période de recombinaison. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, avant la recombinaison, on a un espèce de plasma chaud, il y a de fortes interactions entre les photons et les protons. Et il y a un couplage. Et puis, au moment de la recombinaison, en fait, ces photons vont pouvoir s'échapper et voyager librement jusqu'à nous. C'est donc ces photons-là qu'on observe et qui constituent le fond diffus cosmologique. C'est la première image qu'on peut avoir de l'univers.
Excuse-moi, mais pourquoi tu dis 8 milliards d'années ? Enfin, je veux dire, c'est-à-dire 7 milliards d'années. Parce qu'il n'y a pas 5 qui a eu 7.
Non, c'est pas son âge, c'est le. Quand il s'est formé,
il y a 1 milliard d'années de formation du système solaire, je ne vois pas du
tout. On a 13 milliards au total.
Ça fait 5,7 milliards d'années. Et le Soleil n'a pas 5,7 milliards d'années, il n'a que 4,7 milliards d'années.
Oui, d'accord.
Donc on a 1 milliard d'écart.
Enfin, oui, pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a une imprécision à dire. Donc, ce modèle de Big Bang prédit pour ce signal de fond du cosmologique, c'est ces propriétés qui sont signalées ici et qu'on va voir d'abord du point de vue théorique et puis ensuite du point de vue observationnel. Donc, spectre de corps noir, pourquoi ? C'est parce qu'on est donc à l'équilibre thermique avant la recombinaison. Et donc, ce plasma, il émet comme un corps noir avec des températures d'équilibre qui est de 3000 Kelvin. Hein. C'est la température à partir de laquelle on entre dans la recombinaison. Et puis, de cette température, on va pouvoir déduire l'âge de la recombinaison. Dérivant ces équations, donc, la température qu'on observe aujourd'hui du fond diffus cosmologique, c'est 3 Kelvin à peu près, donc ça nous donne sur les chiffres environ 1000. Une propriété importante de signal, c'est qu'il est isotrope, c'est même dans toutes les directions du ciel, ça découle de notre hypothèse d'homogénéité de l'univers, il n'y a pas de point préférentiel dans l'univers, ni de direction privilégiée, ça c'est la base du modèle. Cela dit, on prédit quand même l'existence de petites anisotropies. Donc, elles sont petites parce qu'elles sont 100 000 fois plus petites que la température de rayonnement du fond diffus cosmologique. Et puis, donc, en fait, elles sont l'amplification des fluctuations primordiales que j'ai mentionnées tout à l'heure pour l'interne d'impression. On a besoin de ces anisotropies, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un univers qui n'est plus isotrope, on a des galaxies, des amas de galaxies. Et donc, en fait, ces petites anisotropies, en fait, elles sont à l'origine des structures de matière complexes qu'on observe aujourd'hui. Donc, on en a besoin dans notre modèle. Dernière propriété, ce fond il est faiblement polarisé, mais ça va revenir en détail dessus tout à l'heure. Donc, toutes ces prédictions ont été confirmées par des observations. Ce modèle de Big Bang il est bien assis, et en particulier grâce aux observations du fond diffus cosmologique. On a par ailleurs d'autres sondes cosmologiques qui confortent aussi ce modèle, qui sont listées ici. Je ne vais pas les présenter dans la présentation, mais elles font partie du paysage d'analyse de données cosmologiques. Et elles rendent donc ce modèle de Big Bang extrêmement prédictif et cohérent. La partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie la plus spéculative de ce modèle, c'est les conditions initiales, c'est ces fluctuations primordiales qu'on a pendant la fin d'inflation. Alors maintenant, on a vu un peu le modèle, on va se placer du côté de l'observateur et voir ce qu'on a observé jusqu'ici. Donc, ce fond diffus cosmologique, l'observation du fond diffus cosmologique, c'est une histoire qui commence en 1965. Donc, on est en fait cette année, donc 50 années d'observation de ce signal. Et toute l'histoire d'observation, elle est jalonnée par les résultats en fait, de ces trois satellites. Donc, ces trois satellites qu'on a envoyés pour spécifiquement observer le fond diffus cosmologique. Il y a deux satellites qui ont été envoyés par l'Agence spatiale américaine, la NASA, et puis un satellite européen. Donc pourquoi c'est des expériences importantes? Ben c'est des projets de chair qui sont designés pour un cas scientifique en général long et complexe. Et donc quand les résultats arrivent, on a énormément de choses à extraire de ces données. Mais ce n'est pas les seuls moyens d'observer le fond diffus cosmologique. On a entre ces missions satellites un certain nombre d'observatoires sur Terre du fond du cosmologie, qui peuvent être soit des ballons stratosphériques, soit des télescopes au sol. Donc ici, je vous donne un petit panorama de toutes les expériences qui sont en cours cette année d'observation du fond du cosmologie. On a essentiellement deux sites au sol, qui sont le désert d'Atacama et au sud. On va revenir tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles on a choisi ces deux sites. Alors, donc cette histoire de l'observation, la première expérience spatiale pardon, qui a observé le fond du cosmologique, c'est ce satellite Kobe, qui est un satellite envoyé par l'agence spatiale américaine, qui a été lancé en 1989. Il y avait à bord deux instruments, un spectrophotomètre qui était là pour confirmer avec une grande précision ce spectre de corps noir prédit par le modèle, et puis aussi les radiomètres différentiels qui étaient là pour faire la mesure des anisotropies, donc mesurer les différences de température sur le ciel. Sur ces deux sujets, en fait, la mission a été un très très grand succès et sur les deux objectifs principaux. Donc, le spectre de corps noir a été confirmé au pour 1000. Là, je vous montre ce spectre. Les points de mesure, c'est les points rouges, et puis la courbe théorique, c'est la courbe noire. Donc, très grand succès pour cette partie-là. Et puis, pour les anisotropies de température, on a donc cette première mesure sous forme de cette carte qui est montrée ici. En fait, on a l'habitude de montrer cette carte déclinée sous la forme de cette série-là. Ça, c'est pour illustrer un petit peu la complexité de la mesure. Donc, en fait, quand on mesure le signal dans le domaine des micro-ondes, en fait, ce qu'on voit, c'est que le signal est au premier ordre isotrope. En fait, on voit un signal qui est constant sur le ciel avec cette température d'environ 3 Kelvin. Pour avoir accédé à la mesure des anisotropies, il faut soustraire cette partie-là du signal. Et si on soustrait ce parti monopole, ce qu'on voit, en fait, c'est un dipôle, qui, en fait, n'est pas d'origine cosmologique, c'est simplement un effet Doppler qui est lié à notre mouvement, au mouvement du satellite, par rapport à la surface de dernière diffusion. Ce dipôle est connu. Vous voyez qu'il a une amplitude qui est 1000 fois plus petite que cette température d'origine. Donc, ce dipôle, il faut aussi le soustraire pour pouvoir mesurer enfin les anisotropies. Vous voyez que là, on commence à les mesurer. À haute latitude galactique, on a le même pattern contre ces deux cartes-là. C'est juste le chiffre de couleur qui a changé. Et la difficulté principale, c'est qu'ici, dans le plan galactique, en fait, on a encore un signal parasite qui est en fait une émission de notre propre galaxie dans ce domaine de fréquence. Et donc, cette partie-là aussi, il va falloir la soustraire pour avoir une carte complète des anisotropies. Donc, ça illustre un petit peu à quel point c'est difficile. En fait, il n'y a pas grand-chose qui bouge ici dans le plan galactique.
C'est assez régulier.
C'est complètement statique, sauf la lumière zodiacale, qui est en fait quelque chose qui est très faible, donc qui ne vient pas tellement pour nos observations. C'est assez statique. Alors, je reviens sur cette polarisation. Donc, le signal il va être polarisé par effet Thomson. Quand l'effet Thomson, c'est les photons qui sont diffusés par des électrons. Et si cet effet se produit dans un milieu où il y a un moment quadripolaire, hein, en fait, on va avoir une polarisation linéaire qui va être induite, une direction privilégiée. Alors, pour avoir ces deux conditions, effet Thomson et moment quadripolaire, en fait, c'est des conditions qui sont réunies qu'à la fin de la recombinaison. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait encore des électrons libres et qu'il y ait déjà une anisotropie de température. Donc, ça explique pourquoi la polarisation, en fait, est faible, c'est environ 1 à 10% du signal seulement. C'est encore plus difficile de la mesurer. Je vous rappelle, la température, c'est 3 Kelvin, les anisotropies, c'est 100 000 fois plus petit, la polarisation, c'est seulement 1 à 10% de ce signal de température, d'anisotropie de température. La polarisation, on la représente dans un champ vectoriel, on va la représenter par ces traits, là, une direction qui est donnée par l'orientation du trait, puis une amplitude qui va être donnée par la longueur du trait. En fait, ça, c'est une possibilité de représentation, mais comme tout champ vectoriel, en fait, on va aussi avoir une représentation sous forme de deux scalaires, on va être noté E et B, donc c'est une décomposition du champ vectoriel en une partie avec composante rotationnelle nulle et une partie à composante rotationnelle non nulle. Et donc on a pris cette notation E, B par analogie avec le champ électrique ici et le champ magnétique ici. Donc cet effet Thomson avec grand quadripolaire ne produit de la polarisation que de type E. Ça tend à ce que la composante rotationnelle soit nulle. Ça, c'est un des avantages aussi d'utiliser utiliser cette représentation, c'est qu'en fait, on s'attend à observer que des modes de type 2. La polarisation du fond diffus cosmologique, elle a été mesurée pour la première fois par une expérience au sol, qui s'appelle l'expérience DESY, en 2002. Et puis, la première observation satellite, elle est faite par le deuxième satellite à observer le fond diffus cosmologique, le satellite WMAP, en 2003. On a, on a à peu près 12 ans de retard par rapport à la fois sur l'analyse et sur la mesure par rapport à la température. Donc, on a vu, avec ce fond diffus cosmologique, on va pouvoir mesurer les anisotropies de température, on va pouvoir mesurer sa polarisation. Et puis, il y a deux choses auxquelles on va pouvoir avoir accès. Et ces choses se passent dans la catégorie des anisotropies secondaires. Je vais vous en présenter deux. Alors, anisotropie secondaire, ça veut dire que c'est des anisotropies qui sont générées après la surface de dernière diffusion, donc à des époques qui se situent entre nous, observateurs, et la surface de dernière diffusion. Et donc, ça va être des effets qui vont être marqués sur les photons qui voyagent entre la surface de dernière diffusion et nous. Ces anisotropies de température, elles peuvent être de deux types, soit radiatives, soit gravitationnelles, et puis on va avoir un de chaque qui est le plus important. Donc je commence avec cette partie réalisation qui est un effet radiatif. Donc en fait, l'époque de la réalisation, c'est la formation des premières étoiles et des premières galaxies qui vont avoir un fort rayonnement UV, ces étoiles, et puis elles vont ioniser de nouveaux milieux. On va avoir de nouveau présence d'électrons libres dans le milieu interstellaire. Et ces électrons libres, ils vont nous permettre de refabriquer de nouveau de l'effet Thomson. Va avoir comme effet de cette rayonisation sur les photons du CMB un signal de polarisation supplémentaire à grande échelle. La diffusion des photons du CMB par ces nouveaux électrons, ça va avoir aussi un effet sur la température, ça va amortir davantage les anisotropies. Et puis on a un troisième type effet qui va être dans la catégorie des effets non linéaires, donc ça c'est pour les structures très compactes qui vont pouvoir régénérer de nouvelles petites échelles. Ces trois effets-là, ils vont tous dépendre de la colonne de densité d'électrons sur la ligne de visée. Et donc, en langage de l'histoire de la rayonisation, ça va être la durée de l'époque de rayonisation. Donc, plus la rayonisation s'étend sur une longue durée, plus on va avoir de polarisation à grande échelle, plus on va avoir d'amortissement dans les échelles intermédiaires et des effets non linéaires à petites échelles. Je vous montrer un deuxième effet, l'anisotropie secondaire, qui cette fois l'anti-âge gravitationnel. Donc l'anti-âge gravitationnel, ça va être une déflexion des photons quand ils vont traverser des grandes structures de matière. C'est un effet qui va être assez petit et puis qui va être essentiellement imprimé par les structures de matière qui vont se trouver. Là où l'effet est le plus fort, c'est quand la matière se trouve à mi-distance entre nous et sur la de dernière diffusion. Donc en fait, l'effet il va être essentiellement imprimé par les structures qui se trouvent à ces redshifts-là, des milliards d'années, et puis à des redshifts un peu inférieurs. Donc ça, c'est parce qu'en fait, au fil de l'histoire de construction de l'univers, on va avoir des structures qui vont grossir par l'effet gravitationnel, et donc avec des structures plus massives, on va avoir un effet qui va être un peu amplifié. Cela étant, l'effet reste quand même très très petit. Donc la déviation typique, c'est par minute, donc c'est la taille angulaire de Vénus, par exemple. Et sur les cartes qu'on représente ici, en fait, c'est équivalent à 1 pixel. Donc ça va être des déviations de photons de l'ordre de 1 pixel. Donc c'est un effet qui est très petit, c'est pour ça qu'on a été mesuré pour la première fois par finalement notre satellite de troisième génération, le satellite Planck, qui a permis de reconstruire cette carte, finalement, qui est une carte des grandes structures de matière noire, indirectement mesurée par l'effet de l'anti-âge gravitationnel. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un peu ce qu'on avait comme couche observationnelle dans le fond du cosmologique, on va voir comment on va extraire l'information cosmologique et les paramètres d'ensemble de l'univers à partir de ce signal. Et la première chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va regarder la statistique de ce signal, et en particulier son moment d'ordre 2, qui est donc son spectre angulaire, spectre de puissance. Donc le spectre de puissance, donc, c'est la valeur quadratique qui est moyenne sur le ciel du signal, et on l'obtient comme on fait pour n'importe quelle sphère, il faut pareil transformer le foyer, sauf que cette fois-ci, on observe sur une sphère, donc on va avoir une transformée qui va être adaptée à la sphère, ça s'appelle la transformée en harmonie sphérique, mais bon, l'histoire est à peu près la même, on va obtenir le spectre de puissance en faisant la somme du module au carré et des coefficients de la décomposition. Donc c'est un spectre angulaire, mais qui dépend d'une petite grandeur qui s'appelle L, qui est en fait le moment multipolaire, qui est, il faut comprendre comme l'inverse de l'échelle angulaire. Donc cette quantité, le spectre a cette forme ici. Donc pour les petits moments multipolaires, ça va correspondre en fait à grandes échelles angulaires. Et pour les grandes valeurs de moments multipolaires, on va caractériser des petites échelles. En général, on plotte pas directement les valeurs de C de L, mais C de L multiplié par L plus 1, ça nous permet juste de décomposer le. C'est une convention, en fait, qui va nous permettre en fait, de représenter le spectre en nombre de puissance logarithmique. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler sur le spectre angulaire? C'est parce qu'en fait, on s'attend à ce que le fond du flux cosmologique soit un signal gaussien. Et si le signal est gaussien, il est entièrement décrit par son spectre de puissance. Donc on ne va pas perdre d'informations à travailler directement sur cette. C'est un intérêt d'un point de vue pratique aussi, c'est-à-dire que de notre carte qui avait 50 milliards de pixels, en fait, on va travailler sur une quantité où on a finalement 5000 points, 5000 valeurs pour chacune des échelles angulaires. Mais la raison principale pour laquelle on travaille sur ce spectre, c'est la suivante. C'est qu'en fait, on va être capable de faire des prédictions du spectre angulaire en fonction des paramètres cosmologiques pour des modèles de. Et donc ces prédictions, c'est par exemple cette courbe verte. Et donc tout l'exercice en fait, de cette analyse cosmologique, ça va être de faire un ajustement entre ces prédictions et puis le spectre qu'on mesure, c'est-à-dire les points rouges. Et le produit final de notre analyse, ça va être une probabilité, la probabilité pour certains paramètres, donc paramètres cosmologiques, fonction, enfin, connaissant les valeurs empiriques du spectre de puissance. La magie de cet exercice, c'est qu'en fait, pour décrire cette courbe qui est a priori une forme assez complexe, en fait, on a besoin de seulement 6 paramètres. Et donc, ces 6 paramètres-là vont nous permettre de prédire cette courbe verte qui va s'ajuster très précisément au point de mesure rouge. Alors, très précisément, mais à 2 bémols près. Le premier, c'est pour les petites valeurs du multipôle, donc les grandes échelles. Ici, on voit en fait qu'on a une grande marge d'erreur sur les points de mesure et sur le modèle aussi. Donc la raison pour ça, c'est cette variance qu'on appelle la variance cosmique. C'est en fait lié au fait qu'on a un seul univers à observer. Donc on a une variance intrinsèque qui est liée au faible nombre de modes sur lesquels on va envoyer les signaux. Et puis il y a un deuxième régime dans lequel l'ajustement n'est pas très précis. C'est celui des très grandes échelles multipolaires, des petites échelles angulaires. Et ça, c'est lié au fait qu'en fait, ici, c'est le régime où on a beaucoup de bruit instrumental. Donc, l'ajustement est également imprécis dans ce régime-là.
Alors, le trou qu'il y a à 30, L égale 30, j'en ai parlé à François Boucher, là, et c'est quand même un souci. Et alors, il dit, c'est la variance cosmique, on est dans les barres d'erreur, mais moi, je trouve que c'est un peu mettre la poussière sous le tapis.
On met souvent la poussière sous le tapis dans ce régime-là. Il n'y a effectivement rien à faire contre la variance cosmique, à part faire une prédiction, et une prédiction qui...
Je lui disais que ça pouvait peut-être correspondre un peu à l'échelle des superclusters de galaxies. Je me demandais si à ce niveau-là, on n'avait pas des trucs comme le grand attracteur et tout ça. Ça ne pouvait pas aller dans cette distance. Je suis expert de ce truc-là, je pose un peu la question aussi.
La seule réponse qu'on peut donner, c'est faites un modèle qui explique cette anomalie, fournissez une deuxième sonde avec laquelle on va pouvoir le vérifier. Parce qu'effectivement, on ne pourra rien dire de plus avec les anisotropies de température. On ne peut pas se battre contre cette réponse. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est quels sont ces 6 paramètres. Comment ça se fait qu'avec seulement 6 paramètres, on puisse prédire un tel spectre? Alors, il y a essentiellement 3 ingrédients à retenir. Et on va voir quels sont ces 3 ingrédients et quels sont les paramètres qui sont liés à chacun de ces 3 ingrédients. Je vais déplacer par catégorie. Donc le premier ingrédient, c'est qu'on a des fluctuations aléatoires primordiales qu'on a vu pendant notre phase d'inflation. Donc on a photons, baryons et des matières noires qui fluctuent. Ces fluctuations sont amplifiées par la gravitation. Donc, là où on a une surdensité, en fait, on va avoir tendance à attirer davantage de matière, donc on va avoir une amplification dans ce régime-là. Mais comme on a de fortes interactions entre photons et matière, en fait, on va avoir une force qui va résister à cet effet gravitationnel, qui va être la pression de radiation des photons, qui vont jouer un petit peu comme un ressort ici. Et donc, la combinaison de ces deux effets va nous générer en fait, des oscillations de variance, et ces oscillations vont nous donner cette espèce de pic acoustique. Le dernier ingrédient pour expliquer ce spectre, c'est la distance, à quelle distance on observe cette surface de dernière diffusion. Donc pour ces trois ingrédients, on a ces paramètres sociologiques qui sont liés. Donc les paramètres rouges, c'est ceux qu'on va pouvoir ajuster en fonction de notre spectre angulaire. Donc pour les oscillations de baryon, en fait, ils vont être essentiellement caractérisés par les densités de matière ordinaire, densité de matière noire. L'ingrédient ici, la distance de l'observateur à la surface de dernière diffusion, en fait, ça va être directement ce paramètre qui est l'âge de l'univers. Et puis, pour les fluctuations primordiales, en fait, on va les caractériser par ces deux paramètres ici, que je vais expliquer tout à l'heure. Il y a un dernier paramètre qui n'est pas expliqué ici, qui est la profondeur optique de la réalisation. On a vu que c'était une anisotropie secondaire, donc je vais en parler un petit peu. Donc on va regarder dans les détails quels sont ces trois ingrédients et quel est le lien entre leurs paramètres associés et l'effet sur le spectre. En ce qui concerne les oscillations, donc on a vu qu'on a deux forces à l'œuvre, l'effet gravitationnel et puis la pression de radiation des photons. Et le lien avec les densités de matière, il est évident, en fait, plus on va avoir de matière, plus l'effet gravitationnel sera fort. Donc, ces oscillations, elles se traduisent par ces pics acoustiques. On a des pics pairs qui correspondent aux pics de raréfaction, des pics impairs qui correspondent aux pics de compression. Et la densité de matière, elle va en fait contraindre le ratio entre les pics de compression et les pics de raréfaction. Donc on va pouvoir directement contraindre la densité de matière en regardant le ratio des amplitudes des différents pics. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais donc on a ici matière baryonique et matière noire. On va pouvoir séparer l'effet des deux à partir du moment où on a observé trois pics. Donc, je vous demande juste d'obtenir cette information, mais pas les détails davantage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pratique, en fait, on ne va pas regarder toutes les paires de pics parce qu'on va avoir un amortissement des pics à très grande échelle. Et donc, on va se focaliser sur les trois premiers pics essentiellement. Donc, la densité de matière ordinaire, elle va être donnée par le ratio entre le premier et le deuxième pic. La densité de matière noire, elle va être donnée par le ratio entre le deuxième et le troisième pic. Deuxième ingrédient, c'est les fluctuations primordiales. Alors, ces fluctuations primordiales, on va pouvoir les lire directement sur le spectre pour tous les multipoles qui vont être plus petits que 50. Parce qu'on est dans cette partie-là du spectre, dans une phase qui est en deçà de l'horizon acoustique. L'horizon acoustique, le premier pic, il apparaît ici. Tout ce qui se passe avant, en fait, c'est ce qui caractérise directement la phase d'inflation. Le spectre, les paramètres qui sont associés, en fait, c'est des paramètres qui décrivent directement la forme du spectre. Donc, on prédit un spectre plat, donc avec un indice spectral. Un paramètre d'indice spectral NS qui doit être proche de 1. Et puis, c'est caractérisé aussi par les amplitudes, les densités de fluctuations scalaires. Ce qu'on peut retenir sur ces deux paramètres, en particulier sur le paramètre ALS, c'est que c'est cette amplitude, la lecture de cette amplitude qui a prévalu les modèles qui prédisaient l'existence de matière noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire une prédiction de l'amplitude de ces fluctuations de densité à partir de la densité qu'on peut mesurer actuellement en suivant les lois d'expansion. Et si on fait cette prédiction-là, en fait, on fait une prédiction d'amplitude qui est beaucoup plus faible que celle qu'on observe. Et la seule manière de pallier à cette différence d'amplitude, c'est de recourir à l'effet d'une matière noire qui n'aurait pas le même couplage avec les photons que la matière ordinaire. La deuxième chose à retenir, c'est que je vais parler indifféremment ici de soit ce paramètre AS, soit un paramètre sigma 8 qui représente tous les deux la même quantité, l'amplitude de ces fluctuations. Simplement, ce n'est pas la même convention, c'est-à-dire que sigma 8, ça vient de toutes ces observations qui mesurent en fait, le spectre de la matière que j'ai montré ici. Et puis, on a choisi ce paramètre, donc c'est 8, c'est pour 8 mégaparsecs, et ça, en fait, c'est la valeur à laquelle le spectre est censé valoir 1. C'est une convention invariable, un paramètre qui doit être proche de 1. Ce qu'on voit tout de suite ici, c'est qu'en fait, on va pouvoir contraindre ce spectre de la matière, à la fois avec des sondes qui sont à petit redshift, qui sont proches de nous, les galaxies, et puis avec le fond diffus cosmologique dans les particules plus loin. Dernier ingrédient, c'est la distance entre nous et la surface des dernières diffusions. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'horizon acoustique est connu. J'ai une échelle caractéristique pour cette oscillation. Simplement, il va falloir convertir cette échelle de distance en échelle angulaire. Pour faire cette conversion, en fait, on va avoir deux effets. D'abord, évidemment, la distance entre nous et cette surface de dernière diffusion, mais aussi le contenu de l'univers, tout au moins sa courbure. Donc, la courbure de l'univers va changer l'échelle caractéristique, l'échelle angulaire, laquelle on va voir ces grains, ces anisotropies. Alors, dans les analyses qu'on fait, dans le modèle standard qu'on utilise avec nos analyses de fond diffus cosmologique, en fait, on va toujours postuler qu'on se trouve dans un univers plat. Donc, on va annuler cette possible variation et se concentrer sur la distance entre nous et la surface des dernières diffusions. Et cet effet, en fait, ça va avoir simplement pour effet de shifter ce spectre sur l'axe des axes. Pour faire court, en fait, on va pouvoir mesurer l'âge de l'univers en regardant la position tout simplement du premier pic. Voilà, donc on a vu rapidement quel était le lien entre ces paramètres cosmologiques et l'effet sur le spectre angulaire. Donc les densités de matière, elles vont être lues sur les ratios d'amplitude des différents pics. L'âge de l'univers, c'est la position du premier pic. Et puis les paramètres des fluctuations primordiales, elles sont lues directement sur la forme du spectre pour les multipoles qui sont pic 50. J'ai pas encore parlé de la profondeur optique de réalisation, mais ça va venir tout de suite. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que cet exercice-là, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la cosmologie et déterminer ces 6 paramètres-là, au modèle standard, à travers la lecture du spectre angulaire des anisotropies de température. En fait, on va pouvoir faire de la cosmologie avec d'autres choses. En particulier, on va pouvoir regarder la partie polarisée du spectre, puisqu'on a un signal qui est polarisé. On va faire aussi beaucoup de choses en combinant notre fond diffus cosmologique avec d'autres observables cosmologiques, comme les supernovas ou les VO. On va pouvoir aussi faire de la cosmologie en utilisant notre carte directement. Notre carte, elle ne va pas servir qu'à calculer le spectre, mais aussi s'en servir directement pour récupérer l'information cosmologique. Et on va aussi faire de la cosmologie en utilisant les anisotropies secondaires. Donc on va voir ces quatre choses dans les prochains transparents. Alors, sur la polarisation, ce qu'on a vu, c'est que notre effet Thomson et ces fluctuations de densité, elles ne généraient que des modes de type E, donc la composante rotationnelle nulle. Et donc, dans ce modèle simple, on va pouvoir avoir un spectre de mode E, et puis un spectre croisé entre température et polarisation. Et ces spectres-là, ils vont être complètement prédits à partir des observations de température. Donc on va se servir des données de polarisation pour faire deux choses. D'abord, on va vérifier que le modèle standard tient, c'est-à-dire que la prédiction est bonne. Et puis, on va s'en servir aussi pour lever certaines dégénérescences entre les paramètres cosmologiques. C'est là qu'intervient le dernier paramètre, celui de la profondeur optique de réionisation. Donc ce qu'on a vu, c'est que la réionisation, ben, ça nous rajoutait de la puissance à grande échelle, et puis ça nous amortissait les petites échelles. Donc ça va avoir un effet qui va être exactement le même que celui de la pente primordiale, comme le paramètre NS. Donc on a une dégénérescence qui est importante entre ce paramètre profondeur optique de réionisation et la pente. Là où l'effet va être différencié, ça va être en regardant le spectre des modes E, qui est montré ici pour différentes valeurs de la profondeur optique de réionisation. Vous voyez qu'il y a un pic ici où l'amplitude varie fortement en fonction de cette profondeur optique de réionisation. Donc c'est en utilisant ce spectre des modes E qu'on va pouvoir différencier les deux paramètres. Ici, je vous montre un contour plot entre ces deux paramètres, donc taux contre NS. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la courbe, le contour de vraisemblance de ces deux paramètres joints, quand on utilise que les données de température et les données par le trait, l'ellipse creuse, Et puis si on rajoute les données de polarisation, on va pouvoir réduire la taille de l'ellipse et contraindre mieux le couple de paramètres. Alors on va faire autre chose avec la polarisation. Donc, on a vu qu'on n'avait que des modes E, mais en fait on va être capable de générer des modes B avec d'autres mécanismes que cette diffusion Thomson et non péripolaire. Donc il y a deux choses qui vont nous générer des modes B. Il y a des perturbations qui sont plus scalaires ou tensorielles, donc typiquement des ondes gravitationnelles, qui elles vont permettre de fabriquer des modes E qui vont contribuer plutôt à avoir des chaînes. Et puis on a cet effet de lentillage gravitationnel en fait. L'effet de lentillage gravitationnel va nous transformer des modes E en modes B. Donc, on va avoir des modes B cette fois-ci qui vont être présents à petite échelle, qui vont être fabriqués par effet par une isotropie secondaire en fait, l'effet de lentillage des modes E. Alors, donc la partie qui est très intéressante, en fait, c'est cette partie grande échelle qui est induite par ces perturbations tensorielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce modèle dans lequel on a une phase d'inflation prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Et si on avait la détection de ces ondes gravitationnelles par cet effet-là, on aurait un modèle d'inflation qui serait un petit peu plus conforté. Donc aujourd'hui, on n'a pas de mesure de ces modes. Donc ces modes, ils sont paramétrés par qu'on appelle R, qui est le ratio en fait, de l'amplitude des modes tensoriels sur l'amplitude des modes scalaires. Pour l'instant, on n'a que des limites hautes. Par contre, ce qu'on a, c'est les premières détections de ces modes B à petite échelle, donc par effet de l'antillage gravitationnel des modes E.
Alors, j'ai une question par rapport à ça. Je me posais aussi à Stavros. On pourrait trouver le fond diffus cosmologique des neutrinos, mais on dit qu'il est trop faible. Je crois qu'il y a 1,9 K. Hein, donc, c'est un peu plus bas que 2,7. On serait un petit peu plus tôt au niveau de la. Ce ne serait pas la recombinaison des photons, ce serait la recombinaison des neutrinos. Enfin, on pourrait voir ça. Donc on gagnerait, je ne sais pas,
300. C'est à la seconde. C'est vraiment très, très, très. Ah, voilà.
Et après, il y a le fond diffus des ondes gravitationnelles qui vont initial. Et celui-là, on arriverait au temps de Planck, quasiment à 10-43 secondes. On n'arrive pas à quoi.
Oui, il y a un temps de l'inflation, 10-35.
Voilà. Donc là, c'est quand même pas exactement les mêmes dont tu parles. C'est des ondes gravitationnelles qui sont. Qui c'est celle-là ?
Qui sont.
C'est celle-là, donc c'est celle qui nous permettrait d'aller plus tôt encore. C'est quand même celle-là que tu cherches.
Celles-là qui sont sorties de l'horizon, ils sont revenus, après, bon, il y a toute cette histoire de l'inflation. Et peu avant la recombinaison, tape sur la. Conformer les anisotropies à le nom de la polarisation quadrupolaire. Ça, c'est 10-5.
Alors, un usage qu'on va faire de notre sonde de fond diffus cosmologique, ça va être de la combiner avec les autres sondes cosmologiques. En fait, je ne vais pas vous faire tout un inventaire de toutes les combinaisons possibles, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cosmologie en combinant les sondes. Je vous montre juste un exemple emblématique, qui est la combinaison entre le fond diffus cosmologique et les supernovas type 1A. Alors, les supernovas type 1A, on l'a vu, c'est des explosions d'étoiles très massives. On va pouvoir mesurer leur redshift, et puis, en fait, elles ont une dispersion dans les courbes de lumière qui est très faible, et on va pouvoir s'en servir un peu comme de champlain standard. Et puis, la mise en relation de ces deux quantités, luminosité contre redshift, ça va nous permettre de contraindre des paramètres cosmologiques. Donc, je ne vous dérive pas toutes les équations, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, avec le CMB, on a vu qu'on contraignait la somme des densités, donc densité de matière, densité d'énergie. Avec les supernovas type 1A, on va pouvoir contraindre la différence de ces deux quantités. Et donc, on va avoir des sondes qui sont complètement orthogonales dans le plan oméga densité d'énergie, densité de matière. Et donc, en combinant les deux sondes, on va pouvoir réduire drastiquement la plage des valeurs autorisées pour ces deux paramètres.
Donc là,
combien
un peu de redondance
avec votre marche, ça permet pas de l'hypothèse du hiver plat. Bien sûr, justement. Ici, on ne peut pas contraindre l'hiver plat ou l'hiver plat avec le CMB tout seul. Et la seule manière de contraindre cette chose-là, c'est en combinant avec une combinaison qui peut être soit les supernovas, soit les diaphones. Alors, on peut faire des choses plus simples que des combinaisons, on peut aussi comparer directement la valeur des paramètres cosmologiques estimés pour telle ou telle sonde. Donc là, c'est un exemple que je montre pour le paramètre de Hubble. L'univers plat, en fait, c'est-à-dire que la somme des densités est égale à 1. Donc pour ce paramètre de Hubble, on va pouvoir mesurer, donc avec le CMB, en fait, c'est équivalent à mesurer l'âge de l'univers, donc on pouvait estimer indépendamment l'un de l'autre. Et puis on va pouvoir comparer ces résultats-là à, par exemple, des relevés de galaxies et de supernovas. Par exemple, avec les données du Hubble Space Telescope, en fait, on a une relation entre la vitesse et la distance de ces objets, qui sont directement liés aux paramètres de Hubble, qu'on va pouvoir construire ici. Et puis, on va vérifier que la valeur mesurée pour H0, pour ces différents surveils, est compatible avec celle qu'on a mesurée avec les expériences de fond de vue cosmologique. Donc, l'intérêt ici, en fait, c'est pas le même modèle, c'est-à-dire qu'on parle de la même quantité, mais on la mesure à distance qui sont très très différentes. Pour le fond de vue cosmologique, on était à un redshift de 1000. Pour ces objets-là, on a des redshifts qui sont maximum égal à 1. Alors, on va faire la cosmologie aussi avec notre carte de fond de vue cosmologique. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre en cause cette hypothèse de gaussianité du signal. Ici, il y avait des petites bombes gaussianité qui étaient imprimées dans le fond de vue cosmologique. Donc, pour vérifier ces prédictions-là, il va falloir retourner en fait, on a certains modèles d'inflation qui prédisent l'existence de petits écarts à la gaussianité sous la forme d'un terme d'ordre secondaire du potentiel inflationnel. Et donc, on a deux catégories de modèles. Il y a les modèles non standards qui prédisent des valeurs de FNL, c'est le facteur qui s'applique devant ce terme d'ordre 2, qui vont être plus grands que 10, et puis des modèles standards qui vont prédire des petites valeurs de FNL. Alors, ça, c'est une chose qui est très difficile à mesurer. Ce que je vous montre ici, c'est la carte prédite par une contribution non gaussienne pour un FNL égal à 1. Et vous voyez que ici, l'échelle, en fait, elle est 1000 fois plus petite que celle des anisotropies de température. Donc, il va falloir avoir une grande précision sur la mesure des anisotropies de température pour accéder à des contraintes sur ce paramètre-là. Et puis, on va utiliser des estimateurs qui sont un petit peu plus compliqués, donc une fonction de corrélation à 3 ou 4 points. Et une des grandes difficultés aussi pour cette tâche-là, c'est d'avoir un traitement des données qui préserve la gaussianité. Il ne s'agit pas d'ajouter de non-gaussianité qui ne serait pas d'origine cosmologique. Et ça, c'est la difficulté du processus. L'autre chose qu'on va pouvoir faire avec la carte, c'est remettre en question cette hypothèse d'homogénéité, d'entropie. Donc, on va pouvoir aussi essayer de chercher des directions privilégiées avant l'échelle de notre fond de vue cosmologique. Alors pourquoi on fait ça, en fait, c'est qu'on a déjà observé qu'il y avait un alignement particulier entre deux multipôles, qui sont le quadripôle, donc L égale 2, et l'octopôle, L égale 3. Donc si on mesure la direction qui est donnée par ces deux multipôles, en fait, c'est ce trait là, qui est blanc, qui est représenté, vous voyez qu'il est très proche dans les deux cas. Et la probabilité d'avoir un tel alignement, en fait, elle est seulement de 1,5%. Donc ça nous interroge un petit peu, mais ici on a de nouveau notre variance cosmique qui nous empêche finalement d'aller plus loin. On est dans des échelles qui sont très grandes, on n'a pas beaucoup de modes sur lesquels naviguer, et puis on n'a qu'un seul univers à observer. Donc finalement, on a une signifiance statistique qui est petite, et puis on ne peut pas lutter contre ça. On ne va pas pouvoir tirer un deuxième univers, un troisième univers pour aller vérifier si c'est toujours aligné ou pas. Donc on est toujours dans la même stratégie qui est qu'il va falloir faire un modèle prédit cet alignement, et puis si possible avec une deuxième sonde, qui n'est pas le fond du cosmologique, pour tester si ce modèle est vrai ou pas. Voilà, et puis je termine avec qu'est-ce qu'on fait de nos anisotropies secondaires, qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer comme information cosmologique avec nos anisotropies secondaires. Donc je vous montre deux cas. Alors le premier, c'est donc cette lentillage gravitationnel que je vous ai présenté dans la section 1. Donc cet effet gravitationnel, il va avoir pour effet de faire une corrélation artificielle entre les modes du fond du vue cosmologique. Et on va utiliser ça en fait pour faire un estimateur de ce lentillage gravitationnel. Donc on va pouvoir reconstruire cette carte que je vous ai montrée en première partie, et puis puis de cette carte, on va déduire le spectre du potentiel gravitationnel qui est représenté ici. Puis on va pouvoir recommencer le même exercice qu'avec notre spectre angulaire des anisotropies. On va pouvoir le paramétrer en fonction de certains paramètres cosmologiques et puis regarder comment s'ajustent les points de mesure à nos modèles. Et donc on va se servir de ce signal comme une sonde indépendante du fond du flux cosmologique. Et on va pouvoir faire un peu la même chose que ce qu'on fait avec nos autres sondes. On va pouvoir soit dériver des contraintes sur les paramètres cosmologiques directement en lisant ce spectre. Et puis on va pouvoir l'utiliser aussi en combinaison avec le fond du flux cosmologique pour lever certaines des dégénérescences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, avec cette sonde-là, l'effet de lentille gravitationnelle, lever des dégénérescences sur notre paramètre taux, comme on faisait avec la polarisation. Ça va être une alternative à la polarisation pour lever des dégénérescences sur la réglementation. Juste à titre d'exemple, je montre aussi une deuxième anisotropie secondaire avec laquelle on peut faire de la cosmologie, qui est l'effet Semyhalev-Zeldovich. Donc ça, c'est un effet Compton, donc interaction des photons avec des électrons lorsqu'ils traversent des amas de galaxies. Et ces amas sont typiquement dans des redshifts qui sont plus petits que 0,6, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus proches de nous par rapport au fond du flux cosmologique. L'effet qui est induit sur ces photons quand ils traversent ces amas, c'est qu'en fait les photons de haute énergie vont gagner encore en énergie, les photons de basse énergie vont diminuer encore d'énergie, et puis il n'y a pas d'effet sur le spectre à cette fréquence-là d'observation. Et donc on va utiliser cette signature spectrale pour pouvoir extraire donc, cet effet. Et en fait, on va pouvoir faire un relevé, donc une carte de cet effet, qui va nous permettre de localiser les amas directement. Alors, la localisation de ces amas, ça ne nous permet pas directement de faire de la cosmologie. On va avoir besoin de combiner cette carte avec des observations qui sont faites en Nice pour avoir la distance de ces amas. Et c'est la mesure, c'est lorsqu'on a cette distance des amas qu'on va pouvoir accéder aux paramètres cosmologiques. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ces anisotropies secondaires, ça nous permet de contraindre la cosmologie qui est après la recombinaison, et en particulier de contraindre la formation sur les structures et leur évolution. Alors, pour résumer, je vais faire un petit tableau des résultats qu'on a sur ces paramètres cosmologiques avant Planck. Et puis, donc dans le prochain cours, je vous déroulerai l'analyse qu'on a fait dans Planck, et puis je vous donnerai finalement la réponse que Planck a apportée sur ces interrogations à la fin de son analyse. Donc les résultats que je vous montre sont ceux donc, de la précédente expérience satellite qui est donc WMAP, qui a des mesures de température et de polarisation, qui n'étaient pas très très résolues, ce qui fait qu'en fait on va pouvoir utiliser les données de ce satellite jusqu'à des multipôles qui sont limités jusqu'à L égale 9. Donc on va utiliser ces données-là en combinaison avec les données d'un télescope au sol qui va nous permettre d'accéder à des échelles multipolaires qui sont plus grandes. Donc voici les résultats de la combinaison de ces deux sondes. On a donc des densités de matière noire et des densités de matière noire qui sont contraintes à 10^2%. On n'a rien à signaler sur cette partie-là. L'âge de l'univers, 13 milliards d'années, on l'a vu tout à l'heure. Les parties qui sont un peu controversées sont celles-ci. Donc d'abord sur la profondeur optique de la réionisation. On avait une précédente analyse de la collaboration de WMAP qui avait donné cette valeur-ci et qui en fait n'est pas compatible, étant donné la marge d'erreur, avec la valeur qu'ils ont publiée 2 années plus tard. Alors pourquoi ce retournement de veste? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette première analyse, ils n'avaient considéré que les données de température. Et c'est en incluant leurs données de polarisation qu'ils ont pu lever la dégénérescence sur le paramètre taux. Et puis ça a changé drastiquement la valeur finalement estimée à partir de leurs données. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément tellement confiance dans la valeur qui est publiée ici et qu'on serait très content d'avoir une expérience complémentaire avec une mesure de polarisation avec un plus faible bruit pour avoir une meilleure contrainte sur ce paramètre-là. La deuxième chose un peu controversée, c'est sur les fluctuations primordiales. Donc en fait, pour avoir une contrainte sur le type du spectre, on a besoin de combiner les deux expériences parce qu'il faut le plus large range de multipoles possible. Le problème de combiner deux sondes, c'est qu'on a besoin qu'elles soient très correctement interpénétrées. Et donc, il reste toujours un petit soupçon sur cette valeur-là liée à un problème de calibration. vibration pourrait avoir lieu entre les deux expériences. Donc avec Planck, il devrait avoir une meilleure résolution, on aura directement un range de multipôles qui nous permet de contraindre la NES sans dépendre d'une expérience complémentaire. Sur l'amplitude de ces fluctuations, donc on va regarder le paramètre sigma 8, donc on avait dit qu'il était calibré pour avoir 1, et ça c'est toutes les expériences de l'antillage gravitationnel, d'observation de galaxies, qui ont fait cette prédiction. Les résultats donnés par WMAP, en fait, ne sont pas compatibles avec cette mesure-là, mais la valeur de sigma 8 est beaucoup plus faible. Donc là, on a une tension, on a besoin de résoudre, et puis on va attendre deux plans, en fait, qui tranchent entre ces deux questions-là. Il va pouvoir trancher sur cette question-là avec, en fait, trois sondes différentes. Il y a donc le fond diffus cosmologique qui va donner quelque chose d'équivalent à ce que fait WMAP, mais aussi par effet d'antillage gravitationnel et par effet Z, on va pouvoir être en mesure d'avoir des mesures complémentaires de sigma 8. Et donc on aura finalement à la fin du temps probablement une vraie réponse sur ce paramètre-là. Voilà, et en dehors de ces paramètres cosmologiques, il y a d'autres questions qui sont levées, donc sur les anomalies et les nombrocialités. Donc WMAP nous prédit une valeur de FNL qui est entre moins 9 et 111. On a vu que si c'était quelques petites 10, c'était une inflation standard, si c'était quelques points de 10, c'était une inflation non standard. Donc là, WMAP n'exclut pas le cas de modèle. Donc on attend de plans en fait, qui réduisent l'incertitude sur ce paramètre-là. Les anomalies grande échelle, donc elles sont mesurées par WMAP avec une significativité qui est celle qui est égale à la variance cosmique, mais ce qui peut arriver aussi dans cette analyse, c'est qu'il y a un effet instrumental, un effet systématique qui pollue la mesure. Et donc ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir les remesurer de nouveau avec Planck et exclure définitivement un effet qui serait lié directement à l'instrument. Et puis dernière chose, donc c'est ces modes B. C'est ces modulés induits par les ondes gravitationnelles pour lesquels on a pour l'instant qu'une seule limite haute qui est donnée, qui est de 0,43. Et donc Planck, qui a une mesure un peu plus sensible en polarisation, pourrait éventuellement la détecter si ce ratio il est de cet ordre de grandeur-là. Encore une fois, on n'a pas du tout d'idée a priori de quel est ce ratio, donc on sait pas.
Et je m'arrête.
C'est qu'on n'a plus de publication contractuelle avec les agences, mais on a effectivement identifié un problème sur cette polarisation. On a utilisé des pistes pour le résoudre, donc la collaboration s'engage à faire une publication supplémentaire qui sera associée à une publication des cartes de polarisation avec ce problème corrigé. Ça, c'est pour 2016 normalement. Les nombres de zénithés à grande échelle? Non, à petite échelle. Oui, donc on a les résultats avec Planck, je les donnerai. Je les donnerai après demain. Donc ça s'intègre en fait sur tout le spectre, sur tout le range de multipôles. Donc il y a donc il n'y a pas c'est suffisamment bon d'intégrer sur l'ensemble du range pour avoir une non-détection significative.
Est-ce que tu peux montrer là la plotte de la concordance là où il y avait avec le supernova et le reste des discussions? Brusquement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que Planck, le premier pic, détermine à lui seul la géométrie, le plat ou pas plat.
Soit la géométrie, soit l'âge de l'univers.
Oui, c'est l'âge qui échange la distance. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que le flat et le CMB, c'est le
moment
qui est qui devait être dégénéré, mais comme tu dis que l'EH joue un rôle, et l'EH est dégénéré avec quoi d'autre
La question c'est pourquoi ce n'est pas exactement le même axe entre flat et...
Donc, la H détermine la distance, et puis il y a oméga M plus oméga M. Donc l'angle, tu fais un grand triangle. Donc, tu fais le grand triangle, donc le premier pic, ça te donne la règle au ciel, mais après tu dis que H, ça change pour la hauteur de ce triangle, pour pouvoir mesurer si c'est 180 degrés ou pas, donc flat ou pas flat, l'univers est plat ou pas plat. Donc là, pourquoi ils sont sur oméga, ils ne sont pas, CMB n'est pas sur oméga M plus oméga L lambda égale 1. Pourquoi CMB simplement? C'est la première fois que je remarque comme ça, excuse-moi. Tu comprends ce que je dis?
Oui, mais je n'ai pas de réponse.
Je ne voulais pas te mettre parce que moi aussi, je le remarque la première fois. Pourquoi c'est. Bon, KH, ça joue un rôle dans la mesure, je suis d'accord. Il y a partout du H là-dedans. Mais le H, c'est oméga lambda au fond.
C'est assez surprenant non. Que CMB recoupe la courbe de oméga lambda plus oméga M égale 1 que. Alors, il se passe là que là, tu vois.
Oui, oui, voilà, parce que tu fais non, attends, oui. Parce que tu fais la mesure du H aussi pour la mesure, c'est pour ça. Et H, c'est oméga lambda. Pour mesurer H, H qui est l'expansion de l'univers, qui est la distance, c'est quelque chose qui dépend et de oméga M et de oméga lambda. Voilà la réponse. Donc pour avoir le troisième, donc tu fais le grand triangle, qui est la distance. Avec le grand pic, comme elle a montré, tu as la règle. H, pour mesurer bien H, pour mesurer la distance jusqu'à cette règle, il te faut et oméga M et oméga lambda, parce que ça entre dans la définition du quotient de Hubble. Comment le changer? Après, tu as la réalité générale, etc. Donc, c'est bien.